Je suis Jean-François Canetta, donc CEO, cofondateur d'Augment. Et je vais aller dans la continuité de ce qui a été dit sur les deux premières interventions, en allant encore plus loin dans l'illustration de la réalité augmentée. Vu que c'est un terme qui a été souvent dit, je vais vous montrer exactement quelles en sont les implications, quelles en sont les applications et comment ça se structure aujourd'hui. Donc, Augment, c'est une idée, et c'est une question qu'on me pose souvent, donc comment est venue l'idée d'Augment ? C'est une idée, donc une innovation, ou un système innovant, qui est venue de deux éléments, un problème et une veille technologique. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive dans toutes les innovations, c'est regarder le monde avec un œil ouais, créatif, se rendre compte, tiens, ça c'est un problème, et faire le lien avec des technologies qu'on a vues sur un site web, dans un cours, et en retirer une idée. Dans ce cas-là, je voulais faire des photos, des impressions en grande taille, en poster, à partir de photos, et je voulais voir sur mon mur à quoi ça allait ressembler. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne application pour la réalité augmentée dont on parle depuis si longtemps. J'ai cherché s'il y a des applications existantes qui permettaient de faire ça, et il n'y avait absolument rien qui existait. Donc c'est le moment où on se dit, soit on sort le maître, soit on développe une application de réalité augmentée. J'ai développé une application de réalité augmentée qui permettait de créer et de faire prendre forme à cette vision. Donc l'application, ça augmente. Et la première chose que j'ai faite, c'est la montrer à des galeries, la montrer à des gens pour voir quelle était leur impression. Et leur réaction était très bonne. Donc ce que je montre en général, c'est vous voulez voir un poster sur un mur, vous pouvez, grâce à Augment, visualiser directement le poster sur le mur et voir à quelle taille il va apparaître, comment il va être et comment il va s'intégrer. Donc, absolument sans juger du bon goût de la personne qui visualise les posters, juste pour une question de taille. Donc voilà, ça a été Augment. Ça a été mis immédiatement sur le market Android, sur le market iOS. Et c'est là qu'une deuxième facette de l'innovation apparaît, c'est l'innovation contributive, l'innovation collective. Étant donné que l'application était disponible, des milliers de personnes du monde entier ont pu la télécharger et ont pu imaginer leurs propres usages en fonction de leur métier, en fonction de leur sensibilité, en fonction de leurs propres problèmes, ce qui a fait arriver une série assez incroyable de différentes utilisations. Donc, par exemple, des personnes ont tout de suite imaginé, tiens, on peut utiliser ça dans le domaine du mobilier, parce qu'on a envie de placer une table à l'intérieur de son appartement, on veut pouvoir visualiser. Donc ils ont testé, ils ont mis leur propre modèle de mobilier, ils ont visualisé ça, ils ont envoyé des photos et ils m'ont envoyé des messages tout de suite me disant « Tiens, on aimerait bien utiliser votre application pour faire ça. » Donc évidemment, quand quelqu'un arrive et vous dit ça, ce que vous faites, c'est que vous avez une première boucle de feedback. Donc vous dites « Effectivement, c'est un usage qui est totalement pertinent. » Vous l'implémentez dans l'application, vous faites de la publicité, vous en parlez. Et plus de gens l'utilisent, plus de gens l'appliquent. Et ainsi, vous avez cette innovation qui se construit et qui grandit et qui se nourrit par elle-même. Un deuxième cas d'usage qui a été assez rapidement évoqué, c'était pour tout ce qui était architecte, donc créer des modèles en taille réduite. Et grâce à ça, grâce à l'application, et toujours grâce au fait qu'elle était disponible gratuitement pour tout le monde, les gens ont pu mettre leur propre modèle 3D d'architecture et ont pu aussi trouver des usages assez nouveaux, comme par exemple pouvoir rentrer à l'intérieur d'un building et pouvoir visualiser comme si on était à l'intérieur à quoi ça allait ressembler. Donc voilà, donc ça, ce sont tous des usages qui sont nés à partir de l'innovation et de l'imagination collective. Ensuite, on a essayé d'y appliquer des use cases business pour pouvoir vendre et faire de l'argent. Mais l'idée était là, l'idée était lancée, et on avait donc cette masse de personnes qui représentent maintenant plus de 50 000 personnes qui utilisent l'application et qui nous ramènent tous les jours plein de nouvelles utilisations. Donc l'innovation, c'est au départ un problème, une solution au problème, et ensuite laisser les gens s'approprier de cette solution pour vous redonner des idées. Et je pense que Google, Facebook, Twitter ont fonctionné exactement de la même façon. Par exemple, Twitter, les hashtags n'existaient pas au début, et les personnes ont commencé à utiliser ça naturellement, et Twitter l'a implémenté dans l'interface parce qu'effectivement, c'est un moyen facile et un moyen pratique pour pouvoir communiquer et pour pouvoir parler d'un sujet particulier. Donc, la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est exactement ? La réalité augmentée, c'est venir placer des éléments virtuels qui n'existent pas dans l'environnement réel en respectant la perspective et en respectant le temps réel. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pouvoir se déplacer, l'objet reste à la bonne place, on peut tourner autour, on peut le regarder sous tous les angles. C'est vraiment aller récupérer les informations virtuelles et les mettre dans l'environnement. Donc, pourquoi on voudrait faire ça? Si on regarde et si on lit un peu entre les lignes, la réalité augmentée répond à deux problématiques. Premièrement, enlever toutes les barrières entre l'information et le cerveau. Donc, comme les deux précédents orateurs l'ont évoqué, c'est pas ce que je voulais faire. Les ordinateurs, ça a commencé de manière assez encombrante. Donc, par exemple, premier ordinateur, l'ENIAC. Voilà, c'était ça. C'était une machine, une énorme armoire qui était super encombrante. L'accès entre l'information et la personne, c'était demander à une équipe d'une dizaine de personnes de venir brancher des câbles, ensuite faire des calculs pendant quelques semaines et ensuite venir récupérer une feuille de papier ou des lumières clignotantes et interpréter ça comme étant l'information et la réponse que l'on cherchait. C'est assez compliqué. Ensuite, c'est venu simplifier. Si on fait un bond de quelques années dans le futur, on s'est retrouvé avec des ordinateurs connectés de ce style-là qui permettaient là d'avoir un accès plus direct à l'information parce qu'on venait s'asseoir au bureau, on allumait l'ordinateur et là, on se connectait sur le réseau, on cherchait et on avait l'information dont on avait besoin. Mais même cette expérience, ça implique quand même d'aller s'asseoir dans un bureau, de s'enfermer dans une pièce et de se mettre face à la machine. Ce n'est pas encore totalement intuitif. Aujourd'hui, on arrive à des choses qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, on va arriver à avoir, des devices qui sont de ce style-là, qu'on sort de sa poche, on le tient dans sa main, et ça donne accès à l'intégralité des connaissances du monde via Internet. Donc, on a encore enlevé des barrières parce que c'est un objet qu'on porte sur soi en permanence, on n'a pas besoin de s'enfermer dans une pièce, si on est en train de faire du surf, on peut le sortir et visualiser quelles sont les vagues les plus intéressantes autour de soi. Le futur, c'est de rapprocher encore plus l'information de l'humain. Et ça va être fait via des lunettes. Donc on porte les lunettes sur soi, et on a un petit écran là, une caméra, on a des écouteurs derrière, et grâce à ça, toutes les informations d'Internet sont en permanence sur soi. On n'a même plus besoin de sortir son device de sa poche. On n'a plus besoin d'avoir cette barrière de l'écran, car tout est projeté directement dans la rétine. Donc, ça, c'est l'évolution. C'est l'évolution qui est en train de se produire. Et c'est l'évolution qui va amener à placer l'information là où on en a besoin. Parce que vous n'avez pas besoin que l'information soit affichée sur un écran. Quand vous consultez, par exemple, la tension électrique sur un circuit, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un appareil sur lequel la tension va s'afficher pour deux câbles. Ce que vous voulez, c'est être en train de regarder votre compresseur et voir que tel tuyau il a telle pression, que tel tuyau a un problème, que celui-là est arrêté, que celui-là est allumé. Vous voulez que l'information soit affichée dans le monde réel. Par exemple, dans le cadre de la conduite, vous voulez savoir que la voiture qui est en face de vous, elle va trop lentement et que vous devez l'éviter. Et vous ne voulez pas avoir un clignotant qui s'allume quelque part sur votre tableau de bord auquel vous n'allez pas faire attention. Ce que vous voulez, c'est que la voiture elle-même clignote. Vous êtes en train de soigner un animal, peut-être vous voulez voir la température de l'animal directement sur lui, ou un enfant, ça marche aussi. Donc, oui, désolé. Donc, ce que l'on veut, c'est mettre l'information là où elle a du sens. Et la réalité augmentée et la suppression de toutes ces barrières, ça va venir mettre l'information où vous la voulez. Pour l'instant, on fait ça en essayant de capter le maximum d'informations à partir des senseurs qu'il y a à l'intérieur, des capteurs qu'il y a à l'intérieur des téléphones ou des tablettes. Donc, par exemple, on va avoir des accéléromètres, des GPS, on va avoir aussi de la reconnaissance d'image. Donc, en regardant à travers la caméra va être capable de détecter « Ok, ça c'est un mur, ça c'est à peu près une table ». C'est encore assez... c'est pas encore super précis parce que, imaginez, vous avez un ballon qui est à 1 mètre de vous et un ballon 5 fois plus grand qui est à 5 mètres de vous. Le capteur ne va pas être capable de dire celui-là il est à 5 mètres et il fait telle taille, celui-là il est à 1 mètre, il fait telle taille. Tout ce qu'il voit, c'est un ensemble de pixels. Ce qui fait qu'on a encore beaucoup de difficultés à arriver à une expérience où vraiment la flèche pointera exactement à l'endroit où vous voulez être, ou quand vous vous baladez dans la rue, la flèche pointera sur la porte sur laquelle vous devez rentrer. Et c'est pour ça qu'on va rajouter des nouveaux sens à ces capteurs. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est le nouveau capteur annoncé par PrimeSense, qui est le Capri, qui est exactement le même capteur que celui qui est sur une Kinect, à part qu'il est 5 fois plus petit. Donc, ce qu'ils vont venir faire, c'est installer sur tous les smartphones, toutes les tablettes, ce capteur de profondeur qui, lorsque vous allez regarder l'environnement autour de vous, va reconstituer tout en 3D. Et imaginez que vous voulez jouer à micro-machine sur votre table. Vous allez pouvoir placer un pot de crayon, des biscuits, une brique de lait. Et simplement en regardant avec la tablette, ils vont être capables de voir, OK, il y a une brique de lait, et vous allez pouvoir faire un circuit. Si votre voiture virtuelle rentre dans la brique de lait, elle va s'arrêter parce qu'elle sait qu'il y a une brique de lait. Donc ça va permettre d'engager toute une série d'expériences, une série d'interfaces qui, jusqu'à présent, avaient été jugées impossibles ou trop compliquées à faire. Ensuite, ça va continuer à évoluer. On va faire des lentilles de contact en réalité augmentée qui vont enlever complètement tous les lunettes, tous les devices. Vous allez être juste en train de regarder le monde et vous allez voir à travers le monde des choses qui sont complètement intégrées, des informations qui apparaissent. Il y a encore beaucoup de défis technologiques avant que ça arrive, mais c'est en cours. Et l'évolution ultime, celle dont on a parlé, c'est venir se brancher directement sur le cerveau. Parce que la réalité augmentée, ce n'est pas seulement du visuel. La réalité augmentée, ça peut être la réalité augmentée audio. Vous vous baladez dans la rue, à un moment, vous entendez un bip, vous dites « donnez-moi plus d'informations » et vous dites « là, vous êtes en train de passer à côté de l'amphithéâtre dans lequel Marie Curie a donné son premier cours. » Ok, vous ne serez pas dans la rue, vous êtes dans un bâtiment en l'occurrence, mais vous avez compris le principe. Vous vous baladez près d'une station de métro et ça commence à vous raconter l'histoire de la station de métro avec la voix de Laurent Deutsch. C'est toute une série d'expériences qui peuvent être faites et qui peuvent être créées de manière audio. Et si vous allez plus loin, vous pouvez avoir des expériences olfactives, des expériences au niveau du toucher. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez voir, voilà, tel matériau se comporte de telle façon, tel autre matériau se comporte de telle façon, et vous avez l'impression que vous touchez quelque chose, mais en fait, vous ne touchez rien. Donc, toutes ces expériences, elles sont possibles aujourd'hui en mettant des appareils, des gants, des écouteurs, mais en se branchant directement sur le cerveau, vous n'avez plus besoin d'avoir toutes ces choses qui, finalement, sont assez encombrantes, qui peuvent tomber en panne d'énergie. Vous venez vous brancher vraiment là où l'information doit être dite. Et ça permet aussi au cerveau de communiquer avec l'extérieur. Donc, imaginez le problème pour les lunettes de réalité augmentée. Vous n'avez plus de souris, vous n'avez plus d'écran. Comment vous dites que vous voulez avoir plus d'informations sur tel objet? Pour l'instant, on utiliserait la voix en disant « donne-moi plus d'informations sur tel objet ». Ce que vous voulez vraiment, c'est penser à une action, penser à prendre une photo, penser à « donnez-moi plus d'informations », penser à partager sur Facebook ou acheter. Et toutes ces informations-là, le meilleur outil pour les exécuter, c'est vraiment le cerveau. Et on va arriver à un moment où l'information virtuelle et l'information réelle seront complètement mergées, complètement mises l'une dans l'autre, et vous n'arriverez plus à faire la différence. Arrivera un moment où, quand vous voyez quelque chose, vous vous poserez la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Et tant qu'on a un smartphone, des lunettes ou limite des lentilles, on peut toujours les enlever pour voir si la chose est vraie ou fausse. Quand tout sera intégré dans notre corps, on sera dans une perpétuelle question sur savoir ce qu'on voit est-il vrai, ce qu'on voit est-il faux. Un peu comme quand vous êtes dans un trip sous LSD. C'est un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc ça ne va pas arriver tout de suite. On ne va pas avoir un Big Bang où d'un coup, un matin, vous allez vous réveiller et tout le monde sera connecté, tout le monde sera branché sur Internet ou sera branché sur un réseau global qui sera peut-être plus Internet. Ça va être quelque chose qui va s'immiscer dans la vie peu à peu. Peut-être qu'un chauffeur en scooter qui va livrer des pizzas commencera à prendre des lunettes de réalité augmentée parce que ça lui donne son chemin et c'est beaucoup plus simple et c'est plus rapide. Peut-être qu'un plongeur en eau profonde voudrait avoir ça pour voir à quel endroit il doit souder. Et ensuite, ce chauffeur va se rendre compte qu'en fait, pour aller en vacances, c'est pratique aussi d'avoir des lunettes de réalité augmentée. Ou peut-être que la personne qui l'utilise pour soigner quelqu'un va se dire « Tiens, je pourrais aussi l'utiliser quand je fais du jardinage. » Et peu à peu, les usages vont se développer. Peu à peu, ça va rentrer dans le quotidien, mais vraiment par petites touches, un peu comme les agendas électroniques sont rentrés dans notre quotidien. Au début, c'était utilisé par les hommes d'affaires, et maintenant, tout le monde en utilise. Et on n'a pas vraiment vu de transition, c'est juste arrivé. Donc, ça sera peut-être dans 5 ans, ça sera peut-être dans 10 ans, mais à un moment, vous vous rendrez compte que tout autour de vous est réalité augmentée et que la technologie est vraiment venue dans votre vie, que vous ne pouvez plus vous en passer. Et j'espère que ce jour-là, vous utiliserez Augment. Merci. Au revoir.
On parle beaucoup de cette interface directement au cerveau, connectée directement au cerveau. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il risque quand même d'y avoir un gros problème, une grosse frontière au moins psychologique, c'est qu'en fait, tous les systèmes qu'on a actuellement, ils ne sont pas invasifs. Il n'y a pas besoin d'opération, il n'y a pas besoin d'avoir un morceau de silicium directement dans le cortex. Est-ce que vous ne pensez pas, non seulement que ça risque d'être compliqué pour le grand public d'accepter d'aller à l'hôpital pour se faire greffer un smartphone dans la tête, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de poser des problèmes sanitaires? On parle beaucoup des ondes, etc. Et est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de poser des problèmes aussi? On voit déjà avec Google Analytics, on est vachement tracé quand même sur Internet. Est-ce que ça ne risque pas de poser des problèmes au niveau de liberté, de droit à l'oubli, etc. Est-ce que c'est vraiment souhaitable d'aller jusque-là avec des technologies invasives comme ça? Parce que les lentilles, etc., y a pas, je vois pas trop de problème, mais voilà.
Déjà, pour répondre à la question de l'invasivité, il suffit de voir le nombre d'opérations esthétiques qu'il y a aujourd'hui où les gens se font implanter des abdos ou des fessiers ou des seins. Donc, je ne pense pas que ça gêne vraiment les gens de se mettre sur un billard pour se faire opérer. Après, il faut se dire que lorsque une personne l'aura faite, ça introduira directement un déséquilibre dans la population. Donc imaginez, vous êtes dans un examen, et là, il y a une personne qui a un implant et qui est capable de communiquer direct avec Internet et qui connaît toutes les réponses juste en les regardant. Est-ce que ce jour-là, il n'y en a pas une deuxième personne qui va dire « Merde, moi, j'ai pas envie d'être dernier, je vais aussi faire l'implant ». Si c'est pas trop invasif, si c'est une opération locale où on vous met juste quelque chose là qui va se connecter, c'est une question. En fait, c'est la même question qui s'est posée avec Pistorius quand il a commencé à courir plus rapidement que les gens qui avaient des vraies jambes. Est-ce qu'un jour on va pas arriver où les athlètes vont se couper les jambes parce que les jambes artificielles fonctionnent mieux? Donc c'est une question effectivement, mais je pense qu'à partir du moment où un certain nombre de personnes vont le faire, d'autres vont suivre.
Donc en fait, ce serait avec la pression sociale, la pression de la performance.
Exactement.
D'accord.
Je pense que ça va être la même chose que pour les drogues qui permettent de rester éveillé plus tard, qui permettent d'aller plus loin.
Oui, parce que ça existe depuis la Seconde Guerre mondiale.
Exactement.
Ce genre de drogues, on les prend pas pour autant pour travailler plus.
Tout le monde les prend pas, mais compter le pourcentage de la population étudiante, par exemple, qui prend des petites drogues pour durer plus longtemps quand ils étudient un examen, pour tenir mieux, de la caféine et d'autres. Et c'est à petite dose. Effectivement, il y en a qui prennent de l'héroïne et d'autres qui prennent des comprimés de caféine. Mais c'est un équilibre. Et certaines personnes vont se faire implanter un ordinateur électronique. D'autres ne vont pas le faire parce que ça dépasse leurs propres limites personnelles. Mais je pense que la population et la pression va faire que de plus en plus de monde vont le faire. Et aussi, la diminution de la barrière technologique, la diminution du prix. On va arriver à des choses assez simples où il suffit de, comme un peu les pilules que l'on peut se mettre sous le bras et qui diffusent les hormones en permanence. Là, ça serait un ordinateur qu'on vient se mettre quelque part près de la tête. Donc je pense que ça ne va pas être vraiment le problème. Après, le problème de l'analytique, c'est le problème du suivi. Ça risque d'être un problème parce que ces devices, ces implants, ils seront faits par des entreprises. Et les entreprises, ils n'auront pas forcément en tête seulement l'amélioration du bien-être humain. Ils vont avoir en tête de savoir qu'est-ce que chaque personne pense en permanence pour pouvoir lui mettre la publicité la plus adaptée ou pouvoir lui pousser l'offre la plus adaptée. Donc, il y aura un équilibre à se faire et peut-être qu'à un moment, on aura des devices qui seront faits par des gens open source, ce qui n'est peut-être pas non plus super conseillé quand on voit comment tournent certaines distributions de Linux. Donc, il va y avoir un équilibrage à faire entre tout ça. De la même façon qu'aujourd'hui, on fait un équilibrage entre est-ce qu'on achète un device Apple pour après être enfermé dans l'écosystème? Est-ce qu'on va sur Google pour ensuite savoir que chaque touche que l'on fait sur le device est envoyée sur leur serveur et analysée, sans même qu'on s'en rende compte? Enfin, je sais pas, je suppose que par exemple, tu as la location activée sur ton téléphone?
Non, non.
Non, ok, d'accord. Mais, enfin, même pas pour utiliser Maps, pour se déplacer, GPS, tout ça?
Non, non, j'imprime mes cartes.
Ok, d'accord.
Ouais. Voilà, c'est un peu particulier.
Okay. Donc, pour tous les autres... on a la localisation qui est activée, donc on sait déjà partout où on se déplace. Donc entre avoir ça dans sa poche en permanence sur soi 100% du temps et l'avoir sur son corps aussi 100% du temps, je pense qu'il va y avoir un pas qui va être tellement faible que beaucoup vont faire le pas.
Bon, ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre intervention.